Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
La lecture et l'interprétation des écritures bibliques nourrissent la foi et l'espérance des chrétiens depuis plus de 2000 ans. Le pape Léon XIII disait que l'étude de la Bible est comme l'âme de la théologie. Au fil des siècles, les méthodes de lecture ont évolué en fonction des contextes historiques, culturels, scientifiques et religieux propres à chaque génération de lecteurs. À l'époque moderne, l'Église catholique a dû surmonter la confrontation parfois douloureuse avec la critique des textes que nourrissaient les découvertes scientifiques et des philosophies hostiles à la foi chrétienne. Aujourd'hui, les croyants et les chercheurs de sens qui veulent lire la Bible ont à leur disposition des outils éprouvés et des guides de voyage pour s'aventurer dans les écritures bibliques en dépassant leurs éventuelles appréhensions. Nous proposons à nos auditeurs de consacrer 3 émissions à l'exploration des chemins de lecture dans la Bible. Nous ferons d'abord un peu d'histoire en évoquant les crises que l'Église catholique a dû surmonter depuis l'affaire Galilée en matière de lecture et d'interprétation de la Bible. Dans une deuxième émission, nous aborderons le discours sur les méthodes à partir d'un document passionnant de la Commission biblique pontificale qui présente les différentes méthodes de lecture pratiquées de nos jours. Enfin, dans une troisième émission, nous relirons à titre d'exemple un texte biblique pour montrer les apports respectifs de l'approche historico-critique et de l'approche narrative. La condamnation de Galilée en 1633 par un tribunal ecclésiastique a marqué le début d'un long conflit entre la Bible et les sciences. Que retenez-vous, père Alain, en tant qu'exégète de cette affaire Galilée ?
Alors, c'est vrai que l'affaire Galilée est un moment clé, on pourrait dire, dans la découverte, d'une certaine manière, d'entrer dans le temps des Lumières. C'est le moment où, par rapport à la Bible, il y a des questions qui se posent. Aujourd'hui, on célèbre les 500 ans de la fondation, de la création de Luther et de son éloignement du catholicisme. Tout ça, c'est un esprit, si vous voulez, qui s'est marqué. Galilée a découvert quelque chose qui était perçu déjà un peu par les savants, mais qu'il a mis en forme, c'est de penser que c'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais c'était l'inverse. Et évidemment, ça a bousculé beaucoup de choses. On entrait un peu dans une période critique. Et je pense à cette phrase, par exemple, que le cardinal Bellarmin, qui est pourtant un homme très savant, un grand théologien dans la lignée du Concile de Trente, il disait, parmi les arguments qu'il donnait pour lutter contre les théories de Galilée, il disait, de toute façon, un homme de bon sens n'a pas besoin de rectifier son jugement, ses yeux ne le déçoivent pas lorsqu'ils lui rendent compte que le soleil, la lune et les étoiles se meuvent. Évidemment, c'est l'évidence. Et avec la crise moderniste, il va y avoir après un dépassement. Pour le moment, c'est une étape. Il va y avoir d'autres crises, je crois que vous les évoquez aussi pour ouvrir notre débat. Donc cette première, elle va beaucoup marquer. On peut dire aujourd'hui, on a un peu dépassé cette dimension, mais ça a été un moment difficile pour le rapport à l'écriture. C'est-à-dire il y avait une espèce de, on pourrait dire, c'était un monde enchanté. Les écritures, c'était la vérité absolue. C'était la vérité. Et on sait que, on en reparlera dans une de nos conférences, un de nos débats ces jours-ci, cette idée que la vérité des Écritures était totalement vraie dans tous les sens, plan scientifique, tous les plans imaginables. Aujourd'hui, le Concile Vatican II nous a fait bouger, mais il faudra attendre assez longtemps.
Oui, on l'entend d'ailleurs, la réhabilitation de Galilée, c'est Jean-Paul II.
Oui, c'est vrai. Jean-Paul II a réhabilité Galilée, mais c'est longtemps après. Ça, il y a eu des dégâts quand même.
Hein. Oui, oui.
Et il y a eu des souffrances, puisqu'il a été condamné deux fois, et avec des arguments qui aujourd'hui ne tiennent plus. Et je trouve que c'est tout à l'honneur aussi de Jean-Paul II d'avoir remis en place, à quelque sorte, qui touchait à l'honneur de Galilée, puis qui a blessé beaucoup de gens dans l'histoire de l'Église.
Alors il y a une deuxième crise qui va faire beaucoup de bruit, et qui s'est produite à la fin du XVIIe siècle autour des livres du Pentateuque. Et elle a confronté trois grandes figures de la philosophie, de la théologie et de l'exégèse de l'époque, Spinoza, Simon et Bossuet.
C'est vrai. Alors, ils n'avaient pas les mêmes compétences les uns ou les autres, mais Spinoza, évidemment, est une figure marquante, hein, qui a été excommunié du monde juif, puisque c'était un juif, comme vous savez. Et il a écrit un livre, on pourrait dire, qui s'appelle le Traité théologico-politique, qui a été un grand moment dans la remise en cause, en particulier, du Pentateuque. Le Pentateuque, c'est le cœur de l'Ancien Testament. Le Pentateuque, c'est les cinq livres. Hein. C'est, au fond, l'essentiel. La tradition juive dit que si Israël n'avait pas péché, on n'avait pas besoin d'autre chose que du Pentateuque. C'est véritablement toucher au Pentateuque.
C'est la Torah.
C'est toucher à la Torah, c'est toucher à la Genèse, c'est toucher à l'Exode. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et donc, la crise Spinoza va oser dire, je cite une petite phrase de ce qui a beaucoup été repris ensuite, « Par toutes ces observations, dit-il au terme de son travail, il apparaît plus clair que le jour que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, mais par un autre qui a vécu plusieurs siècles après Moïse. » Alors aujourd'hui, évidemment, quand on lit des choses comme ça, on est convaincu, mais vous vous rendez compte du retentissement de ce que Spinoza avait osé dire, et qui même aujourd'hui ne serait pas recueilli dans certains milieux juifs plutôt traditionnels, de dire que c'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuque, mais c'était Spinoza l'avait dit, et vous avez évoqué aussi, juste après, il y a eu un oratorien qui s'appelait Richard Simon, et Richard Simon va écrire contre Spinoza. C'est assez étonnant. Son livre, qui va paraître en 1680, va être une contestation de l'approche de Spinoza, même si, à bien des égards, ils étaient proches. Et il va rencontrer alors un obstacle terrible, c'est Bossuet.
Le grand Bossuet.
Le grand Bossuet qui va mettre au pilon, sur pouvoir intervention royale, il va mettre au pilon tous les livres de Richard Simon, qui était, ça s'appelait Histoire du Vieux Testament. C'était on pourrait dire aujourd'hui, c'était un chef-d'œuvre. Et beaucoup pensent que si on avait accueilli, mais on ne pouvait pas, bien sûr, à ce moment-là, si on avait accueilli Richard Simon et son Histoire du Vieux Testament, peut-être qu'on aurait pu éviter au moins l'ampleur de la crise moderniste qui viendra quelque temps après. Et Bossuet a été impitoyable, hein, et Richard Simon était assez rusé, hein, c'était un homme rusé. Il va essayer de sauver quelques livres, il va en envoyer en Angleterre, il va en envoyer en Hollande, et certains livres seront sauvés. Mais s'il n'y avait eu que Bossuet, tout aurait disparu. Donc, ce livre qui était un peu un précurseur, on pourrait dire, de ce que nous appellerons la critique moderne de la Bible.
Alors c'est finalement au XIXe siècle que va advenir cette fameuse crise moderniste que vous avez déjà mentionnée plusieurs fois et qui va secouer l'Église pendant pas mal de temps, jusqu'au Concile Vatican II pratiquement. Vous pourriez nous résumer un petit peu les faits saillants de cette période de remise en cause fondamentale de l'exégèse biblique?
Oui, oui. Alors là, on pourrait parler longuement, hein, oui, de cette période du XIXe siècle, mais il faudrait sans doute remonter plus haut, parce que nous avons sélectionné Richard Simon. C'est un peu des gens isolés. Il y a peu de gens qui, au moins dans le monde catholique, dans le monde protestant, il y en avait davantage, puisque les protestants n'avaient pas de magistère comme nous l'avons. Mais le développement, ce que les Allemands vont appeler l'Aufklärung, c'est-à-dire le siècle des Lumières, était déjà en marche. Il y avait déjà beaucoup de questions qui étaient posées, en particulier sur les évangiles, c'est-à-dire comment est écrit l'évangile, on aura l'occasion d'en reparler, mais ici nous étions sur le problème du Pentateuque, et le 19e va bousculer alors les choses de manière rapide, et en particulier, pourrais peut-être donner quelques exemples, à travers les grandes découvertes archéologiques de la fin du 19e et du début du 20e. Alors, peut-être pour vous donner un exemple peut-être un peu sommaire qu'on dit quelquefois, quand on regarde l'Église catholique au 19e, on a deux impressions un peu contrastées. L'Église catholique a été une église missionnaire de façon extraordinaire. Il y aura beaucoup de créations de congrégations religieuses, féminines, masculines. Grande époque missionnaire. Mais au plan intellectuel, on pourrait dire quand même assez pauvre. Et refusant, au fond, tout ce qui apparaissait, toutes les nouveautés, y compris sur les évangiles, on l'a déjà évoqué à d'autres circonstances, donc on ne va pas y revenir maintenant, puisque nous nous intéressons plus au Pentateuque et à des mutations très importantes qui vont se développer. Mais la fin du 19e et le début du 20e vont être une époque justement qu'on appelle la crise moderniste. C'est là que va se développer cette grande crise moderniste, et vous avez raison de dire que cette crise moderniste, elle va déboucher sur Vatican II. Vatican II va être, d'une certaine manière, un moment clé qui va essayer d'élucider un certain nombre de blocages qui s'étaient faits au moment de la crise moderniste. Et ça sera, oui, quelque chose qui va nous apporter beaucoup d'éclairage, mais on ne peut pas penser aujourd'hui sans se souvenir de ce qui s'est passé au début du XXe siècle.
Effectivement, dans cette période, il y a eu ces grandes découvertes archéologiques là, au Moyen-Orient. Les découvertes déjà sur les textes de Gilgamesh, etc., les découvertes du code de Hammurapi. Comment ça a impacté en quelque sorte la manière de lire la Bible à l'époque ?
Ce que l'on peut faire remarquer, c'est que ça a beaucoup troublé même les spécialistes, hein, même les enseignants. Alors des gens comme Ernest Renan avait déjà écrit sa vie de Jésus, qui avait eu un succès invraisemblable. On ne se doute pas aujourd'hui de la place qu'avait la vie de Jésus de Ernest Renan dans toutes les maisons bourgeoises françaises et puis aussi au-delà de la France. Donc ça, c'était par rapport à Jésus. La critique commençait à apparaître et Renan va jouer un grand rôle. N'oublions pas que Renan avait fait ses études à Saint-Nicolas du Chardonnay. Ça nous amuse un peu de penser ça aujourd'hui. C'était un petit séminaire pour les jeunes séminaristes, et Renan, qui était brillant, avait fait ses études, et au moment d'être ordonné diacre, il va s'arrêter parce qu'il a eu le sentiment qu'il avait perdu la foi à travers cette critique. Alors, revenons peut-être à les questions qui nous regardent de plus près. C'est la crise donc moderniste, je vous disais, elle va, c'est vrai, se centrer davantage sur l'Ancien Testament que sur le Nouveau. Ça apparaîtra après, peut-être le Nouveau. Mais c'était déjà présent pour la vie de Jésus, par exemple. Les vies de Jésus, c'était l'époque où il y avait beaucoup de vies de Jésus qui s'écrivaient, et beaucoup de choses pouvaient se développer. Mais ce que l'on peut dire, si vous voulez, sur cette crise moderniste, c'est là que l'école biblique va être fondée. En 1890, le père Lagrange... On n'aura pas le temps de s'attarder sur la figure du père Lagrange.
Vous en aviez déjà évoqué plusieurs fois.
J'en ai déjà parlé. Mais on ne se doute pas du côté initiatique du père Lagrange. Quand on pense à tout ce qui se passait à ce moment-là, comment lui s'est mis tout à coup à apprendre les langues anciennes, à apprendre l'allemand, à apprendre l'italien, à apprendre à l'étudier en Autriche. Enfin, véritablement, il s'est préparé. Et quand on l'a nommé à Jérusalem, sur le coup, il était très malheureux parce qu'il aurait voulu rester en France. Et puis, on sait toute la richesse que va être l'apport du père Lagrange à Jérusalem avec la fondation de l'école biblique et aussi les souffrances, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront condamnés dans cette période par l'Église, en grande partie à cause de l'ignorance, au fond, qui continue à circuler parmi les autorités.
Mais dans le même temps, dans cette période... Le magistère, finalement, a essayé quand même de dénouer la crise en publiant des textes très importants. Il y a eu trois grandes encycliques qui sont sorties à ce moment-là. Enfin, surtout deux importantes, de Léon XIII et de Pie XII.
Oui, ça, vous avez déjà anticipé, vous avez déjà dépassé. Je m'attarde peut-être un peu sur le début du siècle. Parce que si on veut bien saisir ce que l'on vit aujourd'hui... Nous reparlerons tout à l'heure des encycliques que vous évoquez, mais il y a eu en 1902, la date est importante, en 1902, Rome va créer le texte pour défendre les textes bibliques, c'est-à-dire le document, je cherche le nom maintenant, l'institution donc romaine qui va décider de l'autorité des textes bibliques. Donc c'est c'est la commission biblique pontificale qui va être créée en 1902. Alors, évidemment, on peut le dire vite, les décisions qu'ils vont prendre au départ n'auront pas beaucoup de poids, car ils vont prendre des décisions dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire ceux qui vont être chargés de ce travail n'auront pas la compétence, donc ils vont faire souffrir beaucoup de gens, comme le père Lagrange. Et puis en 1909, c'est la création de l'Institut biblique de Rome. Et ça, évidemment, c'est une date très importante, c'est-à-dire que Rome, l'Église catholique, se rend compte que si elle veut ouvrir des chemins qui soient des chemins crédibles, il faut qu'on ait des hommes formés, des femmes formées. Ça sera plus tard, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes à l'Institut biblique de Rome. Et on va créer cet institut qui est encore en vigueur aujourd'hui et qui va beaucoup apporter, en particulier au moment du Concile Vatican II. Donc, vous voyez, et alors ce n'est qu'après. Alors, vous disiez, vous parliez des encycliques, vous pourriez peut-être nous les énumérer dans l'ordre un petit peu.
Alors, il y a l'encyclique de Léon XIII en 1893, hein. Providentissimus Deus.
Voilà, alors cette encyclique, on peut dire, il n'y a rien de nouveau, mais c'est quand même un moment important. On commence à se poser des questions sur l'interprétation des Écritures. Donc, ce n'est pas encore ce que va être développé dans le XXe siècle, mais c'est un moment, c'est la première encyclique qui va marquer pour l'Église le souci, au fond, d'aller trouver le sens authentique des Écritures.
Oui, elle n'a pas empêché en 1906 la commission biblique justement de porter un jugement très sévère sur ceux qui contestaient l'authenticité mosaïque du Pentateuque.
Oui, parce que comme je vous le disais, les gens de la commission biblique n'étaient pas très compétents. Et le père Lagrange, on a d'ailleurs, si les auditeurs étaient intéressés par cet espace historique, je leur recommande de lire la correspondance entre le père Lagrange et le maître général qui s'appelait le père Cormier, qui a été béatifié il n'y a pas longtemps. Le père Cormier, c'était le maître général, et le père Lagrange lui envoyait tous ses livres. Et il les faisait lire par des dominicains qui, tout en étant dominicains, étaient de grands ignorants. Et pratiquement tous les ouvrages du père Lagrange étaient condamnés. Mmh. Une petite anecdote qui peut-être nous éclairer. Mmh. Un jour, le père Lagrange, un peu dans la colère, dans la correspondance, on trouve ça, s'est plaint au père Cormier en disant « Mais est-ce qu'un jour, vous me donnerez des lecteurs intelligents ?» Et le père Cormier lui a dit « Bon, mais je vais vous faire une faveur. » Et il lui a donné un professeur.
Un jésuite.
Un dominicain. Un dominicain qui était à Rome et qui était un grand spirituel. Et il a lu le manuscrit et il est tout de suite allé voir le maître général en lui disant « Mais il faut le publier ce livre. » Mais on lui a enlevé et puis on ne lui a plus donné de livre à lire. Donc c'est pour dire, le père Lagrange a beaucoup souffert tout en étant toujours fidèle à l'Église, malgré les souffrances qu'il a pu subir.
Alors il y a une deuxième encyclique très importante qui a été publiée en 1943 par Pie XII, Divino afflante spiritu. Et qui, si j'ai bien compris, s'attachait surtout à la question des genres littéraires.
Divino afflante spiritu, vous savez, c'est traditionnel dans l'Église romaine. On aime bien faire les anniversaires. C'était donc le 50e anniversaire de l'encyclique que vous avez signalé tout à l'heure, Divino afflante spiritu. Et ça a éclairé, aujourd'hui il est un peu dépassé, mais c'était une première démarche qui consistait à souligner l'importance d'apprendre les langues, de ne pas interpréter les écritures sans utiliser, sans connaître les textes de l'époque. Enfin, tout un travail, si vous voulez, qui mettait en route, mais qui appelait bien sûr d'autres développements, mais c'est un moment important.
Alors, on va un peu brûler les étapes parce que je vois que l'heure tourne. On va arriver directement au Concile Vatican II. Où il y a un très grand texte qu'on a déjà évoqué d'ailleurs une ou deux fois, une constitution du Concile qui est la fameuse constitution Dei Verbum.
Oui, Dei Verbum a été, vous savez, le Concile Vatican II a été une période d'une grande richesse. J'ai eu la chance, c'est pas donné à tout le monde, hein, je suis arrivé à Rome en même temps que les pères du Concile. Et donc, je les ai vus tous les matins avec leur musette, rentrer dans la basilique Saint-Pierre pour faire leur travail. Et là, il va y avoir beaucoup de textes hein, qui étaient déjà faits, qui étaient déjà préparés pour les conciles. On ne vient pas comme ça à l'improviste, les textes sont préparés. Mais la plupart des textes ont été tout de suite remis en question par des autorités qui n'avaient pas participé à la rédaction de ces textes, mais en particulier, Dei Verbum va être contesté tout de suite parce que il y avait une approche, si vous voulez, qui était très discutable et que beaucoup de pères de l'Église, des Français, des Allemands en particulier, qui vont contester l'approche de ce texte parce que ce texte se situait dans une problématique où la parole de Dieu était une parole qui était toujours vraie littéralement. Et que donc, c'était, étant parole de Dieu, on ne pouvait pas la contester. Tout était vrai au plan de l'histoire, au plan de la géographie, au plan de tout ce qui était possible. Il y a une vérité absolue. Et ça, plusieurs pères de l'Église vont faire une difficulté, vont aller voir le pape, qui lui va concéder, va leur dire « c'est d'accord, on a remis en chantier Dei Verbum » et ça a donné un très beau texte que nous connaissons, peut-être pas parfait, hein, mais il avait, je dirais, il avait un grand mérite, et ça c'était la réussite de ceux qui y avaient travaillé, c'est qu'il acceptait de dire qu'il y avait à l'intérieur de la Bible des vérités qui n'étaient pas des vérités théologiques, qui étaient liées à l'histoire de l'époque et qui donc devaient être révisées parce qu'on ne pouvait pas les prendre à la lettre. Donc le travail critique commençait à faire son chemin. Et donc la lecture, la vérité des Écritures n'était pas une vérité dans tous les domaines, ce que l'on avait cru jusque-là.
Alors si on devait retenir deux ou trois grands points de Dei Verbum, qu'est-ce qu'on retiendrait ?
Ah ben moi je retiendrais surtout cette idée que la parole de Dieu est une parole qui est à la fois une parole divine, mais qui en même temps est connotée par une dimension humaine. C'est-à-dire, il y a dans l'Écriture des réalités géographiques, historiques, qui ne peuvent pas être prises à la lettre. Donc ça suppose un travail. Et puis, la seconde, ça serait aussi le rôle du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur, il a un travail à faire. Il n'est pas là que pour accueillir une parole qui serait figée et interprété définitivement par le magistère, mais il a aussi une manière de se l'approprier, de la faire sienne, et ça c'est aussi la lecture d'une certaine manière.
Nous aurons sûrement l'occasion de revenir sur ce très grand texte, très riche, mais nous sommes déjà au terme de cette première émission, de cette série, consacrée au chemin de lecture dans la Bible. Merci à vous, Père Alain Marchadour, de nous avoir fait partager vos connaissances. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. La semaine prochaine, même jour, même heure, nous poursuivrons notre échange en passant en revue les principales méthodes actuelles de lecture de la Bible. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.